C'est un monde.
Marie-Hélène Fraxé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Histoire d'autres. Dans tout un monde, nous avons rendez-vous avec André Delpuech, le tout nouveau directeur du Musée de l'Homme. Bonsoir André Delpuech.
Bonsoir.
Alors vous êtes un chercheur passionné autant que discret, vous êtes archéologue, vous avez passé de nombreuses années à travailler dans les Caraïbes et plus particulièrement en Guadeloupe, où vous avez contribué à reconstituer des pans entiers d'histoire inaccessibles ou peut-être occultés, à savoir les sociétés caribéennes d'avant Colomb et puis aussi le fonctionnement réel des plantations esclavagistes et de leurs évadés marron. Et puis, avec toutes ces recherches, on redécouvre donc aussi de nombreux savoirs amérindiens. Vous étiez jusqu'en mars à la tête du département des Amériques du musée du Quai Branly. Et puis, vous venez de prendre en avril la direction du prestigieux Musée de l'Homme, qui a été fondé en 1938. Un musée dont les missions semblent aujourd'hui redéfinies autour de la recherche et de la pédagogie, à l'heure où le regard sur l'autre, et je mets cet autre entre guillemets, est devenu un enjeu de société crucial. Alors on va parler d'abord de vos recherches, parce qu'elles sont très importantes, elles changent notre regard sur un certain nombre de chapitres de l'histoire coloniale, notamment dans les Caraïbes et du côté des Antilles.
C'est vrai que pour tout ce qui concerne les Amériques, pendant longtemps, on en est resté au schéma et aux idées qui ont été véhiculées par les conquistadors eux-mêmes, européens, d'abord les Espagnols, puis les Portugais, un peu plus tard les Français, les Anglais ou les Hollandais. C'était le regard de guerrier, c'était le regard de missionnaire qui découvrait un monde inconnu, mais avec tous les schémas mentaux de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, et qui n'avait absolument rien de scientifique ni d'anthropologique. Donc les seules sources que nous avons eues pendant longtemps étaient les écrits de ces personnages. Et aujourd'hui, grâce à différentes méthodes, on peut revisiter cette histoire et la découvrir tout à fait autrement.
Alors c'était une histoire à une seule voix, et puis l'archéologue donc découvre des sites, découvre des objets, et vous faites parler ces objets. Alors commençons par le premier volet de vos recherches, sur lequel d'ailleurs vous allez publier au fil du temps un certain nombre d'ouvrages accessibles à un large public. Ces recherches donc sur les mondes amérindiens avant et au moment du contact.
Au moment du contact, on l'a parfois oublié puisqu'ensuite on a beaucoup plus parlé des Aztèques ou des Incas ou des Mayas de l'Amérique centrale et aussi des Andes. On oublie que Christophe Colomb, en 1492, arrive dans ce qu'il croit être les Indes. Rappelons aussi que c'est de là que vient le mot indien, los indios, comme il les a appelés. Il n'était pas du tout dans les Indes orientales, mais il était dans ce qu'on plus tard on a appelé les Indes occidentales. Et en fait, il arrive dans les Bahamas, puis il va découvrir lors de ses voyages successifs les actuelles Grandes Antilles, c'est-à-dire Cuba, la République dominicaine et Haïti, Porto Rico, et les petites Antilles, parmi lesquelles la Guadeloupe. Et donc là, il va rencontrer des premiers habitants à qui il va donner des noms ou que les archéologues auxquels les archéologues vont donner des noms plus tard, parmi lesquels ce qu'on a appelé les Taïnos ou les Caraïbes, mais dans une vision très très simpliste et très schématique, puisque en fait, dès le départ, ne sachant pas trop où il arrive, il va y avoir une vision à la fois condescendante, arrogante, avec des mauvaises interprétations de qui est qui. Et dès le départ, d'ailleurs, va se mettre en place un schéma qui va continuer tout au long de l'histoire. La vision du bon sauvage, proche de l'Éden, proche du paradis, d'une part, et d'autre part le sauvage cannibale, irrécupérable et bon à détruire ou à réduire en esclavage.
Alors aux Caraïbes, effectivement, on a dans l'histoire jusqu'à tout récemment eu cette version des gentils Arawaks qui inclut les Taïnos, donc un groupe de gentils indigènes accueillants, hospitaliers, et puis face à eux, les méchants Caraïbes, c'est d'ailleurs ce nom qui a donné le nom cannibale, donc mangeur d'hommes. Il y a des dessins de festins anthropophages. Alors, on peut imaginer qu'à la faveur des nouveaux travaux, cette vision simpliste de ces deux groupes très différents a complètement changé.
Cette vision est totalement aujourd'hui mise à bas, et évidemment, l'histoire est beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que d'emblée, Colomb arrivant sur les rivages de l'actuel Haïti est accueilli à bras ouverts par des gens qui vivent nus. D'ailleurs, longtemps, on l'a oublié, mais Colomb pensait arriver peut-être près des sources du paradis. Ces gens tout nus qui pouvaient rappeler Adam et Ève, la chaleur, le climat, la luxuriance de la végétation. Et donc, ça va devenir vraiment le prototype du bon sauvage. Gentil, qu'on peut en même temps asservir facilement. Et voilà. Mais très vite, lors du deuxième voyage, il va tomber sur des Amérindiens beaucoup plus guerriers. Très vite, il va y avoir des affrontements. Et en plus, aux yeux des Européens, ces gens-là pratiquent le cannibalisme. Alors là, ça y est, la messe était dite, si je puis m'exprimer ainsi. Là, ceci était... À l'époque, on disait cannibale, sodomite et idolâtre. Il n'y avait rien d'autre à faire que de les réduire en esclavage. Tandis que les bons Amérindiens... oublions pas que Christophe Colomb agissait au nom des rois catholiques, en particulier d'Isabelle la catholique. Et donc, Isabelle la catholique, comme un certain nombre de personnes, disait, il faut les convertir à la chrétienté, il faut en faire des bons chrétiens. Donc, d'emblée, s'est posé ce dilemme. Et très tôt, une loi espagnole a établi une chose qui est formidable en termes d'anthropologie, c'est que si les Indiens étaient bons, il fallait surtout pas les asservir et les rendre chrétiens. Si par contre ils étaient méchants et surtout cannibales, il fallait les réduire en esclavage. Donc vous imaginez un capitaine de vaisseau ou un militaire arrivant dans une île qui n'avait que seul but de faire du profit. C'était quand même très facile de dire que c'était des cannibales caraïbes irréductibles et de les réduire aussitôt en esclavage.
Alors l'archéologie, donc puisque vous êtes archéologue, vous avez travaillé dans ce secteur, a apporté quelle évidence majeure au cours des dernières années concernant ces idées toutes faites et quel contre-discours ?
L'archéologie qui s'est particulièrement développée ces 20 dernières années dans tout l'espace caribéen, c'est-à-dire toutes les îles des Antilles, mais aussi les côtes nord du continent sud-américain, notamment le Venezuela, a démontré d'abord qu'il y avait une très longue histoire. Les peuples qui arrivent à l'heure actuelle les plus anciens datent de 8 ou 9 000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont déjà des marins, donc ça aussi, ça nous donne un regard très intéressant. On va voir aussi, grâce à l'archéologie, qu'il va y avoir toute une série d'échanges, de déplacements de population, de colonisation et de mouvements, en fait, qui fait qu'il faut raisonner au sein de l'espace caribéen dans son entier. Les peuples que Colomb découvre à Saint-Domingue ou en Guadeloupe sont des gens qui viennent de l'ère amazonienne, qui viennent des régions du Venezuela et de l'Orénoque, et qui tout au long de cette histoire va être en contact incessant avec eux. L'archéologie le prouve par les objets notamment qu'on trouve. On trouve des pierres vertes, on trouve de l'or, on trouve aussi des animaux, on trouve des dents de jaguar par exemple à Porto Rico, alors que jamais aucun jaguar n'a vécu à Porto Rico, qui par la force des choses viennent du continent sud-américain.
Alors ils sont très nombreux et ce sont des cultures très sophistiquées ?
On a plusieurs évolutions. On a une première vague de peuplement avec des chasseurs-cueilleurs, mais dès le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, on a une arrivée de peuples qu'on pourrait qualifier de néolithiques au regard européen, mais c'est un terme qu'on utilise peu en Amérique. Ce sont des horticulteurs. Je préfère ce terme à agriculteur, puisqu'en fait, ils font une agriculture de jardinage. Et parmi les plantes qu'ils cultivent, il y a des plantes tout à fait fondamentales qui vont bouleverser d'ailleurs l'alimentation de l'humanité plus tard, à savoir le maïs et le manioc. Donc ce sont ces producteurs de manioc, de maïs, de patates douces et autres qui vont coloniser les îles de l'arc antillais. Ils connaissent aussi la céramique. Et on découvre grâce à l'archéologie qu'ils ont développé des sociétés très complexes, beaucoup plus complexes qu'on l'avait imaginé. Complexes en termes de structure sociale, avec des grandes chefferies. On a même pu dire que si les Européens n'étaient pas arrivés, on aurait pu avoir, le mot est un peu anachronique, mais un état taïno au moment de l'arrivée, puisque quand il arrive dans les Grandes Antilles, Colomb, on a des grands caciques, le terme vient de là d'ailleurs, ce sont des chefs qui gouvernent déjà des grandes zones, des grands espaces, mais ça on l'observe déjà dès le troisième ou quatrième siècle après notre ère, on a déjà des sociétés très structurées qui vivent dans des formes d'alliances et qui vont commercer dans toute la Caraïbe, échanger, mener des raids guerriers. Donc c'est la vision d'une société, évidemment, comme partout, beaucoup, beaucoup plus complexe que le schéma binaire, Taïno, Caraïbe, que Colomb a bien voulu décrire.
Et des sociétés avec une histoire.
Une très longue histoire, peuplée de mythes qui sont issus de l'Amazonie. On les retrouve dans les représentations qu'on peut trouver, dans les grottes ornées qu'on découvre, avec donc un savoir-faire, moi que je considère comme exceptionnel. Je parle souvent des jardiniers des tropiques. C'est les peuples de l'ère amazonienne auxquels il faut rattacher les Caribéens sont des génies du monde végétal.
L'histoire, à la lueur de l'archéologie, fournit des éléments tout à fait surprenants. André Delpech, donc vous êtes archéologue, vous êtes le nouveau directeur du Musée de l'Homme, dont on va parler dans un instant. Mais pour l'instant, on parle encore un moment de vos recherches, puisque vous avez, indépendamment du monde amérindien, fait aussi dans cette zone caraïbe des études sur l'époque esclavagiste. Et là encore, l'archéologie fournit des éléments extrêmement nouveaux.
L'archéologie de l'époque coloniale dans les Amériques, mais on pourrait dire cela aussi du reste du monde, comme l'archéologie moderne de manière plus générale, a longtemps inexisté ou été considérée comme quantité négligeable. C'était le cas dans les Antilles, on s'est intéressé surtout au peuple précolombien. Ce que j'ai voulu faire en arrivant aux Antilles avec un certain nombre de chercheurs, c'est développer des recherches d'abord sur les origines de la colonisation, chercher les premières traces des villes, des fortifications, des Espagnols d'abord, des Français, des Anglais, tous les colonisateurs, qui nous amenait à revisiter aussi certaines sagas historiques, certains romans historiques. On a pu contredire complètement des faits au travers d'un tas de phénomènes et observés de manière archéologique. Hein. On a même vu aussi les échanges entre les Européens et les Amérindiens. Récemment, viennent d'être découverts dans l'île de Saint-Vincent et à la Grenade, dans les petites Antilles du Sud, dans des sites amérindiens, des poteries qui incluent des perles de verre européens, des monnaies espagnoles du début du XVIe siècle, des jarres françaises. Donc on voit déjà aussi tout le commerce entre les Amérindiens et les Blancs. Et puis surtout aussi on s'est intéressé à la vie dans les plantations et à l'esclavage, puisque là par définition la vie de ces populations serviles déportées depuis l'Afrique était totalement méconnue ou surtout seulement connue au travers des écrits des esclavagistes eux-mêmes, ce qui est évidemment une source totalement tendancieuse et complètement ahistorique. Quoi.
Alors qu'est-ce qu'on exhume justement comme fait jusque-là absolument inconnu ?
L'archéologie de l'esclavage, comme je me plais à le dire, on a publié d'ailleurs avec Jean-Paul Jacob aux éditions La Découverte, un ouvrage qui s'appelle Archéologie de l'esclavage colonial, est une archéologie qui s'est développée que très récemment parce que par définition c'est une archéologie du discret. C'est tout le contraire de l'image de l'archéologie qu'on a. Là on trouve pas des trésors en or, on trouve pas des masques de jade, on trouve la vie de populations esclaves dans les plantations. Alors on trouve les traces des villages. Et ces villages sont très discrets par définition. Ce sont les villages de bois, avec des populations mal nourries qui n'avaient pas le temps de développer un artisanat. On découvre surtout leurs cimetières qui sont porteurs d'énormément d'informations. En Guadeloupe, avec l'université de Bordeaux, on a fouillé un site ainsi. On a trouvé plus de 200 sépultures d'esclaves du XVIIIe siècle dans la grande terre de Guadeloupe. Et puis aussi l'archéologie nous commence à donner des résultats aussi sur une histoire, alors là pour le coup totalement oubliée, c'est celle de ce qu'on appelle les marrons, ces esclaves qui s'enfuyaient des plantations, se réfugiés dans les endroits inaccessibles et qui eux aussi par définition vivaient le plus discrètement possible pour ne pas être rattrapés par les chasseurs d'esclaves comme il y en avait. Et on retrouve le campement de ces gens-là et là on soulève des pans entiers d'une histoire totalement inconnue et qui en plus a une dimension mémorielle pour les populations descendantes d'esclaves fabuleuse et fondamentale.
Alors ce qui n'intéressait pas finalement les chercheurs, parfois les anthropologues ou même les archéologues, c'est qu'il s'agit de cultures métisses, de cultures hybrides. Et il y a eu pendant longtemps, heureusement c'est fini, mais une espèce de recherche, entre guillemets, d'authenticité d'une culture au moment où elle est intouchée. Et là c'est exactement le contraire, les marrons sont le produit de beaucoup de choses.
Absolument, et comme disait une de mes collègues, Catherine Benoît, c'est un peu une forme d'impensé de l'anthropologie. Là, on parle plus des ethnologues, qui fait que pendant très longtemps, jusque même la Seconde Guerre mondiale et même peu après, et en particulier, c'est pas pour les critiquer, c'était une tendance de l'époque, les chercheurs du Musée de l'Homme ou de son prédécesseur, le Musée d'ethnographie du Trocadéro, cherchaient, dans une forme de nostalgie du néolithique, comme on a pu le dire, des peuples pur,
oui,
entre quatre
intact.
Guillemets, intact, n'ayant jamais vu un seul blanc, n'ayant pas été contaminé par la civilisation, et donc aller le plus loin possible, alors souvent en se méprenant, parce que ça fait belle lurette que des conquistadors de tout poil ont conquis toute la planète, donc croyant trouver des gens complètement purs. D'ailleurs, il ne passe pas encore une journée qu'on croit découvrir au fin fond de l'Amazonie une tribu qui n'a jamais rencontré un blanc, ce qui est complètement faux, évidemment. Ce sont des gens qui fuient surtout le monde occidental. Mais pour le coup, on a oublié de s'intéresser aux sociétés créoles, aux sociétés métissées, parce que, passez-moi l'expression, on lit ça dans les textes de l'époque, elles étaient trop abâtardies, trop dégénérées. On voit ces mots-là dans la langue d'anthropologues de l'entre-deux-guerres, par exemple, et c'est assez terrible.
Alors, les faits nouveaux, encore par exemple un fait qui vous a tout à fait étonné en faisant des recherches sur ces sociétés esclavagistes et éventuellement sur les marrons, qu'est-ce qu'on apprend qui est tout à fait contraire à ce qu'on croyait ou révélateur?
Il y a des histoires qui nous amènent à nous interroger. Je raconte toujours l'histoire des Garifunas du Belize. Pour moi, c'est une leçon d'humanité phénoménale. Et ça amène à méditer sur des notions comme le droit du sang, le droit du sol, les questions d'identité, les questions de culture. Pour résumer très brièvement l'histoire, qui pour le coup est fabuleuse. Des bateaux négriers s'échouent sur les côtes de Saint-Vincent dans la Caraïbe à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe. Donc des dizaines d'esclaves africains réussissent à s'enfuir et se réfugient dans les montagnes de Saint-Vincent. Ils sont recueillis par des Indiens caraïbes, Kalinago qu'on appelle aujourd'hui. Et en fait, démographiquement parlant, ces Africains vont devenir dominants et démographiquement parlant, donc vont remplacer les Caraïbes qu'on a pu appeler autrefois les Caraïbes rouges. Et eux, ils vont devenir les Caraïbes noirs, les Black Caribs. Et c'est-à-dire qu'ils vont prendre en fait et cause de la culture amérindienne. Ils vont apprendre la langue Kalinago, les coutumes Kalinago, etc., etc. Et puis, au moment de la Révolution française, ces Black Caribs s'associent aux Français contre les Anglais et finalement perdent. Et les Britanniques se disent, ces esclaves marrons, puisque pour eux, ils les considéraient comme des marrons, c'est un danger, on va les déporter. Donc, ils ont décidé de les déporter massivement. Ils les ont abandonnés sur une île des Grenadines où la moitié est disparue. Puis, ils ne les trouvaient pas assez loin. Ils les ont déportés plus loin, sur les côtes du Honduras britannique, c'est-à-dire le Belize actuel. Et ces populations, non seulement n'ont pas péri, mais se sont développés aujourd'hui. Il y a 200 ou 300 000 Garifunas, c'est le nom qui se le donne aujourd'hui, qui sont des gens, si on parle comme ça biologiquement, largement d'origine africaine, mais qui sont, en fait, parlent et se sentent Caraïbes des îles et vivent sur le continent américain. Pour le coup, c'est une belle histoire et qui nous interpelle.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Notamment en compagnie d'André Delpuech, le nouveau directeur du Musée de l'Homme. On vient donc avec vous, André Delpuech, de montrer les apports de l'archéologie, puisque vous êtes archéologue avant tout, pour dévoiler des pans entiers de l'histoire du monde, et notamment des Antilles, où vous avez beaucoup travaillé. Alors, on voit bien à quel point vous êtes aussi motivé sur le fait de revisiter tous ces concepts préétablis sur l'identité, la pureté identitaire, et comme directeur du Musée de l'Homme maintenant, donc vous avez certainement beaucoup de projets, puisqu'il s'agit d'inventer un nouveau regard donc sur nos sociétés mondialisées qui sont toutes des sociétés hybrides.
Oui, absolument. Nous sommes d'abord tous africains. Rappelons-le, l'espèce Homo sapiens sapiens née en Afrique il y a environ 200 000 ans, et pour le coup nous sommes tous métissés. Ça fait partie des enjeux, je crois, d'un musée comme celui du Musée de l'Homme, redéfinir, réouvert, puisque rappelons qu'il a réouvert ses portes en octobre 2015, qui se redéfinit dans un paysage muséal qui a évolué sur la place parisienne avec l'arrivée du musée du Quai Branly et qui traite plus des collections, on va dire, exotiques, même si je n'aime pas trop ce mot, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie. Le Musée de l'Homme, lui, se repositionne dans une vision à la fois très diachronique, c'est-à-dire embrasser toute l'histoire de l'humanité, des origines de l'homme à nos jours, du biface au smartphone, comme on pourrait dire, mais aussi entend se positionner, outre cette dimension chronologique et évolutive aussi de notre espèce, depuis Lucie et les Australopithèques, mais se positionner aussi dans les problématiques sociétales d'aujourd'hui. C'est pas un hasard si la première exposition du musée, du nouveau musée de l'homme, s'intitule « Nous et les autres, des préjugés au racisme », c'est de montrer justement comment la science, comment l'histoire, étudiée de manière sérieuse et scientifique, hors de toute idéologie, est là pour combattre des clichés, des préjugés et pour le coup le scandale de ce qu'est le racisme.
Alors le nouveau musée de l'homme, donc comme un énorme outil pédagogique, la fois où j'y suis allée la semaine dernière, il y avait beaucoup d'adolescents, de collégiens. Cette exposition « Nous et les autres », c'est vrai, est très dynamique et assez ludique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le musée de l'homme est vraiment construit autour de cette idée de diffuser un certain nombre de concepts qui sont contraires aux idées toutes faites qu'on a portées longtemps. Et ça voudrait dire aussi que, puisqu'il y a eu d'énormes polémiques autour de Branly, qui maintenant est détenteur des collections, que Branly serait plutôt du côté des arts, tandis que le musée de l'homme serait plutôt du côté de la pédagogie.
En tout cas, le musée du Quai Branly, avant, il y a de la pédagogie, mais c'est aussi un musée scientifique. La notion qui était chère au fondateur du musée de l'homme, Paul Rivet, militant antifasciste, anti-nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale et pendant, avait défini le concept de musée-laboratoire. Donc le musée de l'homme, qui, rappelons-le, dépend du Muséum national d'histoire naturelle, a cette chance et cet atout formidable de s'adosser à des centaines de chercheurs, généticiens, anthropologues, ethnologues, écologues. Et donc, notre but, un peu à l'image, je ne sais pas, on pourrait imaginer de la Cité des Sciences ou du Palais de la Découverte, est de communiquer la réalité de la recherche, les dernières découvertes scientifiques, mais aussi au travers de l'expo sur le racisme, au travers des études de la génétique, comme de toutes les preuves de l'évolution humaine, pour démanteler les clichés et repositionner vraiment le musée dans un discours effectivement scientifique, pédagogique, éducatif, dans un monde et dans une société où il y en a bien besoin. Quand on voit les débats aujourd'hui qui surgissent sur les problèmes des migrants, sur les problèmes du racisme, sur les problèmes de l'intégration et des religions, notre musée entend être un musée engagé. C'est-à-dire pas seulement un musée de la délectation face à des belles œuvres, mais un musée qui porte un discours. Et en ce sens, effectivement, il y a une certaine différence avec des musées qu'on pourrait qualifier plus musée des beaux-arts ou musée d'art, où on va avant tout pour voir la contemplation des chefs-d'œuvre de l'humanité.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le musée de l'homme n'a quasiment plus de collection. Elle serait essentiellement partie au musée du Quai Branly. Bon, tout ça, c'est le domaine national quand même, donc il n'y a pas de problème. Ce sont les collections nationales. Et vous seriez... Donc, on serait plus dans l'esthétique à Branly et dans une perception parfois qui évacue un petit peu, ça a été reproché d'ailleurs à Branly, parfois à tort d'ailleurs, qui évacue un peu l'histoire. Et de votre côté, on serait en prise sur la société et ses problématiques d'aujourd'hui.
Les frontières ne sont peut-être pas aussi tranchées. C'est-à-dire que, comme certains auteurs ont pu le dire, on a assisté à une dernière valse des musées avec la création de Branly, du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui lui aussi a récupéré un certain nombre de collections qui étaient sur la colline du Trocadéro, et le nouveau musée de l'Homme. Vous avez raison de rappeler que d'abord, on est trois musées nationaux qui en fait, entrent en résonance et sont complémentaires. Donc loin de moi, et puis tout ça est derrière nous, les querelles entre les périmètres des uns ou des autres. Mais le musée de l'homme, certes, a perdu les collections d'Afrique, d'Océanie ou d'Asie et d'Amérique qui sont parties sur l'autre côté de la Seine, mais néanmoins conserve des collections exceptionnelles, toutes ces collections anthropologiques. On a d'abord des restes humains fabuleux. L'origine, l'homme de Cro-Magnon est par exemple partie intégrante des collections du musée de l'homme, et au-delà de ça, on a toutes les collections d'anthropologie, des sciences anatomique, tout le regard qu'a porté l'humain sur lui-même. On a des collections de préhistoire, parmi lesquelles certains chefs-d'œuvre absolus, comme la fameuse Vénus de Lespug, une Vénus gravétienne de 26 000 ans, qui est tout simplement des chefs-d'œuvre de l'humanité. Et puis, on a aussi des collections qui vont s'inscrire dans la modernité. Un peu à l'image du MUCEM, on continue de collecter aujourd'hui, on continue de récolter, mais dans une vision effectivement qui se sort d'un primitivisme parfois un peu condescendant ou pour pas dire dépassé, tout en ayant son intérêt propre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le monde aujourd'hui évolue, y compris dans des dimensions qui touchent à la biologie, à la santé. On a comme projet futur une exposition sans doute autour de l'homme du futur, au travers des prothèses, au travers de tout ce qui est ingénierie, technologie, internet et autres. Donc on est vraiment dans l'actualité et aussi dans la dimension, ne l'oublions surtout pas, environnementale, puisque le musée, rattaché au Muséum d'histoire naturelle, entend aussi parler des problèmes d'écologie, des problèmes de déforestation, des problèmes de la nourriture de la planète, etc., etc.
Voilà, musée de l'homme, musée du Quai Branly, la hache de guerre est enterrée. André Delpech, vous êtes le nouveau directeur du musée de l'homme et vous avez publié le mois dernier un article absolument passionnant dans les nouvelles de l'archéologie intitulé « Il est des situations acquises dont il faut s'accommoder ». Donc on enterre la hache de guerre, on est bien d'accord et on regarde ce que vous allez faire. Alors hommage quand même à l'un de ceux justement qui l'avait un peu déterré la hache de guerre, donc vous n'êtes pas rancunier à Jean Rouche puisque à la rentrée 2017. Coup de chapeau à Jean Rouche, c'est vrai, immense cinéaste, immense africaniste.
Oui, il se trouve que c'est le centenaire de la naissance de Jean Rouche. Et le Musée de l'Homme, depuis toujours, depuis que Jean Rouche a lancé un certain nombre de ses films que l'on connaît, programme chaque année un festival ethnographique.
Ouais, qui est passionnant.
Dans un auditorium d'ailleurs qui s'appelle l'auditorium Jean Rouche, qui porte le nom d'un de ses... comment dire, père fondateur et figure emblématique, en tout cas, du Musée de l'Homme, hein, aux côtés des Lévi-Strauss, Paul Rivet, Michel Léris et d'autres encore. Et c'est aussi cette idée, au sein de ce musée, c'est comme je tout à la fois inscrit dans la modernité, c'est aussi de ne pas oublier le lieu dans lequel on se trouve, un lieu qui est chargé d'histoire, chargé de combats dans la résistance, dans la lutte pour les droits de l'homme. Rappelons que l'année prochaine, on va célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la colline du Trocadéro. Donc il y a cette dimension politique engagée autour de ce musée. Et en tout cas, la programmation du festival Jean Rouche, qui sera accompagnée d'une exposition photo de Jean Rouche aussi, sera un événement de la rentrée prochaine.
Et vos grands projets à long terme, vous nous les dévoilez ?
Alors après, nous et les autres, qui donc une exposition qui va durer jusqu'en décembre, donc on souhaite qu'elle ait le plus grand succès. Elle va se décliner d'ailleurs dans des formes diverses et variées sous forme d'itinérance, parce que je crois que c'est un sujet qui intéresse notre pays et au-delà toute la planète. Nous avons en 2018 une programmation, elle, qui sera un peu plus sur une exposition, on va dire, un peu plus classique, entre guillemets, autour de l'homme de Néandertal.
Beaucoup de découvertes récemment, donc il faut relayer.
Donc, oui. Qui justement vont mettre en valeur d'une part nos collections préhistoriques, mais aussi on va faire venir un certain nombre de pièces exceptionnelles du monde entier et qui nous permettent aussi complètement de revisiter notre origine de l'homme. Et la dernière partie soulèvera des questions aussi sur l'imaginaire autour de la préhistoire. Et puis en 2019, nous allons faire une exposition dont le titre n'est pas encore défini, mais qui portera sur les questions de l'alimentation.
Merci André Delpech d'avoir comme ça soulevé le coin du voile. Vous-même, vous avez publié à la fin de cette année justement toute l'histoire de ce musée de l'homme en remontant jusqu'au fameux et très baroque et très oriental musée du Trocadéro.
En fait, par le hasard d'un concours de circonstances, et avant même que je sache que j'irai au Musée de l'Homme, j'ai lancé avec deux collègues, Christine Laurière et Karine Pelletier, un projet qui va aboutir à la publication d'un ouvrage qui va parler d'une période très singulière, qui va de 1928 à 1937, au Musée d'ethnographie du Trocadéro, l'ancêtre effectivement du Musée de l'Homme, dans ce vieux palais inauguré lors de l'exposition universelle de 1878.
Il a duré très peu de temps ce palais en plus.
Il a duré quand même 70 ans, presque, ouais. Et il a été détruit, mais il en reste d'ailleurs quelques vestiges. Quand on rentre dans le musée de l'homme, on peut voir des vestiges un peu comme on fait l'archéologie du musée de l'homme, on voit des vestiges du Trocadéro ancien.
Mmh.
Merci André Delpuech d'avoir passé cette demi-heure avec nous dans Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Valérie Lavallard, à la réalisation, Vanessa Nadjar et Nathalie Sall. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Et on continue de parler archéologie sur France Culture maintenant, puisque vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Vincent.